Chapitre 6. Quelques jours passèrent. Un matin, en remontant après une promenade à travers champs dans sa chambre, Jacques trouva sa femme livide, les bras tombés, anéantie sur une chaise. « Non, je n'ai rien, mais je ne puis me peigner. Dès que je lève les bras, je me sens défaillir. Je ne souffre pas. Au contraire, cela me fait au-dedans de moi tout doux, tout doux. » « Tiens, j'ai comme le cœur gros, je suffoque. »« Oh, cela ne sera rien, » reprit-elle après un soupir. Et d'un effort de volonté, elle se mit debout et fit un pas. « C'est singulier, il me semble que le carreau de la chambre se déplace et que c'est lui qui marche. » Subitement, elle poussa un cri bref et jeta le pied droit en avant, avec le coup de détente sec du maître de savate. Jacques la porta sur le lit où ses ruades en avant se continuèrent, se succédant de minute en minute, précédées d'un cri. Des douleurs semblables à des commotions électriques filaient dans les jambes, s'évanouissaient, ainsi qu'après la secousse crépiscante de l'étincelle, revenaient, errant le long des cuisses, éclatant de nouveau en des décharges brusques. Jacques s'assit, se sachant désarmé contre ce mal qui avait laissé toutes les suppositions, toutes les formules. Il se rappelait des consultations de médecins, parlant d'affections incurables, de métrites, avouant sa marche continue derrière une anédémie aggravée par le repos et par les drogues et toutes les cautérisations, toutes les saignées, toutes les sondes, toutes les désolantes visites, toutes les abominables manœuvres que la malheureuse avait dû subir étaient demeurées vaines. Après être descendu dans les cryptes du corps où il recherchait les traces de cette sensation obtuse qui pesait habituellement sur la malade, les médecins inquiets de ne rien trouver changeaient de tactique les uns après les autres, attribuait au malaise de l'organisme entier cette maladie dont les racines s'étendaient partout et n'étaient nulle part. Il prescrivait les fortifiants, les toniques, essayait du bromure à forte dose, recourait pour terrasser les douleurs à la morphine, attendant qu'un symptôme leur permît de se diriger, de ne plus tâtonner ainsi dans le brouillard de mots inconnus et vagues. Les empiriques auxquels toujours l'on s'adresse alors que l'on a constaté la décisive impuissance de la médecine n'avaient pas vu plus clair. Tout au plus l'un d'eux avait-il découvert un remède qui s'ajustait, mais de quelle sorte? En plaquant une pièce de métal sur le point précis de la souffrance, celle-ci se déplaçait et il fallait la suivre, lui livrer la chasse, la traquer pour en aboutir en fin de compte qu'un irréductible acule, d'où elle bondissait à nouveau, comme lancée par un vibrant tremplin dans le taillis des nerfs. D'autre part, un magister bolognais, inventé par un comte Mattei et connu dans les schismes de l'homéopathie sous le nom de l'électricité verte, enrayait parfois l'attaque, escamotait presque la douleur, matait à peu près le sursaut, mais ses effets étaient infidèles. Après avoir agi pendant quelque temps, cette eau mystérieuse n'opérait plus. Jacques regardait pensivement sa femme qui s'était enfouie la face dans l'oreiller et dont le corps ondulait et glacé sous le drap. Et remonté de la sourde cette maladie, ses pensées descendaient maintenant le cours des crises, le rejoignaient et à l'heure actuelle repéraient au château de l'Ours. La devançait même en calculant son passage dans les régions ignorées de l'avenir. Elle datait de quand, elle était issue de quel désastre, cette déconcertante folie des nerfs? Nul ne le savait. Après le mariage, sans doute, à la suite de désordres internes qu'une fausse honte avait dissimulés le plus longtemps possible, aux diagnostics incertains des docteurs et aux imprévoyantes approches du mari. Cela s'était traîné pendant des années, n'influant que sur la santé physique, puis, peu à peu, s'infiltrant dans le moral, sapant à sa base, finissant par ordonner, dans un lamentable équilibre, les pesanteurs de la métrite aux torpeurs de l'âme, les évanouissements d'un estomac ravagé, aux langueurs d'une volonté déchue. Et petit à petit, une fissure s'était produite dans la cale du ménage, une fissure par laquelle l'argent fuyait. Louise, si attentive dans sa vigie dès le mariage, s'était endormie, laissant la bonne mener la barque. Une voix d'eau sale était aussitôt entrée. Le jour où la domestique fit le marché, se vit autour de la bourse de Jacques un blocus de vieilles soudardes apportant des légumes charriés par les ruisseaux, des poires véreuses remplies, de même que des tabatières de grains noirs, des pommes habitées aux chairs de coton mâchées par des chats. Les poissons devinrent suspects et les viandes blanchirent, épuisées par l'audacieux soutirage d'un sang vendu à part. La cuisine fut tout à la fois coûteuse et sordide. Comme secouée par une inépuisable corée, l'anse du panier dansa et cette tarentule s'étendit au fournisseur. Le charbonnier adultéra ses poids et rétrécit ses sacs. Le frotteur ne patina plus qu'indolemment sur les parquets privés de cire. La blanchisseuse usa des stratagèmes employés par ses pareils, massacra le linge, l'échangea, oublia de l'apporter, le perdit, embrouilla les mouchoirs et les comptes, recourut à d'astucieux pliages pour cacher les plaies du chlore et les trous du fer. Et Louise se sentait sans force pour réagir. Arrivait au Vakoumchlepous, épouvantée à l'idée de tenter un effort, de hasarder des observations, d'entamer une lutte. Et ce désarroi la rongeait pourtant tel qu'un remords, troublait ses nuits, aggravait par son aiguillante continuité la maladie des nerfs. Elle s'épuisa dans cette lutte intime, se commanda sans pouvoir s'obéir, finit découragée par se cacher ainsi qu'un enfant la tête, voulant s'imaginer que les doles n'existaient plus depuis qu'elle se fermait les yeux pour ne pas les voir. Jacques n'avait pas été sans se plaindre cette débâcle, mais la figure navrée de sa femme, la supplication muette de son regard, le désarmait. S'apercevant que dès qu'il se renfrognait, l'état de Louise devenait pire, il consentit lui aussi à se croiser les bras, effrayé de cette défaillance d'énergie, de ce mutisme douloureux d'une femme qu'il avait connue ardente à la besogne et vive. Il songeait mélancoliquement à cette heure à la désorganisation progressive de son intérieur. Oh, c'était irrémédiable maintenant. Et de sourdes révoltes se levaient en lui. Après tout, il ne s'était pas marié pour renouveler le désordre de sa vie de garçon. Ce qu'il avait voulu, c'était l'éloignement des odieux détails, l'apaisement de l'office, le silence de la cuisine, l'atmosphère douillette, le milieu duveté, éteint, l'existence arrondie, sans angle pour accrocher l'attention sur des ennuis. C'était dans une bienheureuse rade, l'arche capitonnée à l'abri des vents. Et puis c'était aussi la société de la femme, la jupe émouchant les inquiétudes des tracas futiles, le préservant ainsi qu'une moustiquaire de la piqûre des petits riens, tenant la chambre dans une température ordonnée et égale. C'était le tout sous la main, sans attente et sans course, amour et bouillon, linge et livre. Solitaire comme il l'était, peu accessible aux physionomies nouvelles, peu liant, ayant le monde en horreur, étant enfin parvenu à réaliser les difficiles bienfaits de la réputation d'ours qu'il s'était acquise, car, las de ses refus, les gens lui évitaient maintenant la contrariété des excuses en ne l'invitant plus. Il avait incarné son rêve de quiétude en épousant une bonne fille, sans le sou, orpheline de père et mère, sans famille à voir, silencieuse et dévouée, pratique et probe, qui le laissait fureter, tranquille, dans ses livres, tournant autour de ses manies et les sauvegardant sans les déranger. Comme tout cela était loin. Comme cet apaisement éprouvé dans le coude à coude d'une femme dont le verbiage était modéré, par conséquent tolérable, et dont les besoins de va-et-vient dans les soirées et les théâtres étaient nuls, avaient été de durée courte. Rapidement, dès les prodromes de l'inexplicable mal, l'atmosphère du chez-soi avait changé. Ce matin un peu couvert qu'il aimait à sentir autour de lui, s'était mué en un crépuscule d'hiver long et morne. Louise, taciturne, inerte, souriait pourtant, témoignant à Jacques que son affection demeurait intacte, mais implorait en quelque sorte d'un œil hésitant et câlin, pareil à celui d'une chatte couchée sur des habits, qu'on la laissa là, sans la chasser, sans la forcer à chercher une autre place. Et il s'irritait devant la descente de ses souvenirs qui appuyaient en passant chacun sur l'élancement de sa plaie. Était-ce sa faute s'il s'était organisé de telle façon qu'il ne pût supporter la dérive d'une vie, et si, avec ses curiosités, ses engouements, il lui fallait à tout prix le repos? Il était l'homme qui lit dans un journal, dans un livre, une phrase bizarre sur la religion, sur la science, sur l'histoire, sur l'art, sur n'importe quoi, et qui s'emballe aussitôt et se précipite tête en avant dans l'étude, se ruant un jour dans l'Antiquité, tendant d'y jeter la sonde, se reprenant au latin, piochant comme un enragé, puis laissant tout, dégoûté, soudain, sans cause, de ses travaux et de ses recherches, se lançant un matin en pleine littérature contemporaine, s'ingérant la substance de copieux livres, ne pensant plus qu'à cet art, n'en dormant plus, jusqu'à ce qu'il le délaissât un autre matin, d'une volte brusque et rêvère, ennuyé dans l'entente d'un sujet sur lequel il pourrait fondre. Le préhistorique, la théologie, la cabale l'avaient tour à tour requis et tenu. Il avait fouillé des bibliothèques, épuisé des cartons, s'était congestionné l'intellect à écumer la surface de ses fatras, et tout cela par désœuvrement, par attirance momentanée, sans conclusion cherchée, sans but utile. À ce jeu, il avait acquis une science énorme et chaotique, plus qu'un à peu près, et moins qu'une certitude. Absence d'énergie, curiosité trop aiguë pour qu'elle ne s'écartât pas aussitôt. Manque de suite dans les idées, faiblesse du pal spirituel promptement tordu, ardeur excessive à courir par les voies bifurquées et à se lasser les chemins dès qu'on y entre, dyspepsie de cervelle exigeant des mets variés, se fatiguant vite des nourritures désirées, les digérant presque toutes, mais mal. Tel était son cas. À se rouler ainsi dans la poussière des temps, il avait goûté de délicieuses heures, mais depuis que les prévoyances de Louise s'étaient dispersées, usées par la lime des nerfs, il était demeuré consterné, sans défense contre les soucis d'argent qui glaçaient ses emballages de cervelle et le rejetait brutalement dans les inextricables réseaux de la vie réelle. Et maintenant qu'il n'avait plus d'argent du tout, quel serait-ce donc? Il hocha désespérément la tête. « C'est la déchéance morale et physique, la misère complète, se dit-il. » Et il se complut à s'exagérer l'horreur de l'avenir, allant du coup à la mendicité, au manque de pain, à l'hospice pour sa femme, à la gueuserie des bas-fonds pour lui. Et comme il arrive toujours aux gens malheureux et inquiets, qui sautent d'un élan jusqu'aux extrêmes, éprouvent même une certaine consolation à constater qu'ils ne sauraient tomber plus loin, Jacques recula et s'apaisa, en s'affirmant à lui-même l'outrance de ses craintes. Tout s'arrange. Cet axiome, cher au pauvre diable qui finissent quand même par manger et par vivre, alors que raisonnablement ils ne peuvent plus rien attendre. Il se le répéta, tablant sur l'inconnu, comptant sur l'avenir, se confiant dans la providence ou au hasard. Après tout, se dit-il, mes affaires peuvent se débrouiller sans que j'aie recours à des chimères. En rentrant à Paris, je récupérerai peut-être quelques sommes et m'installerai dans un quartier tranquille. Il se lança sur cette piste. Oh, je pourrais vendre la majeure partie de mon mobilier et de mes livres. Il les passa en revue, sacrifiant d'abord les objets auxquels il tenait le moins, puis hésitant pendant quelques secondes sur quelques-uns d'entre eux. « Basta !» conclut-il. « Il est indispensable de se désencombrer et de garder juste ce qu'il faut pour meubler deux chambres. » Et ce n'était pas sans une certaine joie qu'il se livrait à cette sélection de bibelots et de livres. Son affection éparse sur des bibliothèques entières et sur des pièces se concentrait en se reportant sur les rares objets qu'il s'apprêtait à conserver. Il les aimait davantage, et cette recrudescence d'amitié pour certains volumes, pour certains meubles, lui faisait presque désirer, à ce moment, de se débarrasser sans tarder des autres auxquels il ne tenait tout à coup plus. « Ce serait charmant, pensait-il, de meubler avec le dessus du panier de mes bibelots, une petite cuisine et deux petites pièces. » Et il se les figura plus larges que longues, gaiement éclairées sur un fond de jardin, à l'abri de la trépidation des rues. Il accepterait la dépense d'un papier de tenture, sans ramage et sans fleurs, mat et foncé. Ici, son lit qu'il gardait, sa table de nuit en bois de violette et d'amis. Là, bon, sa table de travail, deux fauteuils, trois chaises, une carpette et un devant de feu. Puis dans l'âtre, ses chenets en fer forgé, aux pieds en paraffe et aux têtes allongées en poire. Sur la cheminée, enfin, le buste en bois, peint et sculpté d'un pauvre homme de la fin du Moyen-Âge, priant, les mains croisées sur un livre, levant vers le ciel, des yeux suppliants et navrés de chaque côté de ce buste, ses deux flambeaux de cuivre rouge à plateforme et ses deux pots de pharmacie, blasonnés aux armes d'un monastère, deux pots qui avaient sans doute contenu les électuaires, les diascordium et la thériaque d'un vieux couvent. Dans l'autre pièce, il disposerait ses livres sur de simples rayons de bois peints en noir, organisant de la sorte une salle à manger bibliothèque. Il sourit, désireux, presque impatient de réaliser ce logis intime. Il lui sembla qu'il serait mieux calfeutré, plus chez soi, mieux à l'aise, dans ses chambres de banlieue que dans son appartement de Paris aux vastes pièces. Eh non, cela n'était pas possible. Il roula du haut en bas de son rêve. Je n'aime même pas cette ressource des gens déchus de me retirer dans un coin, de me confiner dans un trou, de vivre une existence ouvrière. Car pour réaliser ce modique rêve, il faut une femme économe et robuste. Et Louise n'est, depuis sa maladie, bonne à rien. Et que faire d'une femme impotente, assise dans un angle et frappant le plancher du pied? Et puis, qui sait si sa santé ne s'aggravera point, si je ne deviendrai pas, sans argent pour la soigner, garde malade? Ah, s'il était seul, comme sa vie s'arrangerait mieux. Si c'était à refaire, comme il ne se marierait plus. À supposer en effet que Louise mourût, une fois le chagrin tari, il pourrait attendre sans trop pâtir les événements à naître. Il pourrait vivoter jusqu'à ce qu'il eût trouvé une place. Il pourrait peut-être découvrir une femme râblée, solide, experte à diriger un ménage. Une femme qui fut une servante de curé et avec cela une maîtresse qui n'imposa pas à son amant de trop longs jeûnes. Eh oui, il en souffrait à la fin, des fins de cette abstinence de la chair que la maladie de sa femme lui faisait subir. Il ne la détesterait pas, un peu forte, pas trop rose de peau, cependant, cette maîtresse, il la voudrait. « Ah, mais je deviens simplement ignoble !» se dit-il, comme réveillé tout à coup d'un songe, regardant Louise qui souffrait en fermant les yeux. Il demeura ébahi de ce fulminate d'ordure qui éclatait soudain en lui, car il aimait sincèrement sa femme, et il lui donnait tout ce qu'il possédait pour la guérir. À l'idée qu'il pouvait la perdre, des sanglots lui montèrent aux lèvres. Il se pencha vers elle et l'embrassa, comme pour la dédommager de cette involontaire explosion d'égoïsme, comme pour se démentir à lui-même la bassesse de ses réflexions. Elle lui sourit, et elle-même, à ce moment-là, retournait en arrière dans sa vie, pleurait sur la misère de son corps, sur son existence perdue, désorbité par les approches de la misère. Elle s'affirmait que son mari ne serait jamais apte à rien. Certes, elle ne pouvait se plaindre. Il était bon, affectueux, presque câlin certains jours, bien que plongé dans ses livres et distrait d'ordinaire, d'attentions aimables par ses études. Mais aussi quelle insouciance de ses intérêts. Maintes fois, elle s'était inquiétée de ses placements d'argent, plus retorse, plus défiante que lui en ces matières. Il haussait les épaules. Ah, l'imbécile qui s'était laissé gruger par un banquier qu'il estimait par le seul fait que ce tripoteur ne parlait jamais d'affaires et s'occupait d'art. Combien de fois s'était-elle exaspérée contre son mari, qui était peut-être un homme supérieur, dont elle ne savait pas quoi, mais qui était à coup sûr un bé jaune dans la pratique. Que faire? Elle avait pendant des années essayé de sauver son ménage des périls et des embûches, mais elle s'était constamment butée dès qu'il s'était agi d'argent, un mari qui ne répondait pas, se plongeait le nez dans ses livres et impatientait, grognait. Et elle avait dû s'abstenir désormais de reproches, se répétant qu'après tout, cette petite fortune n'était pas la sienne, se sentant pour ainsi dire dans la situation fausse d'une personne qui participe à un bien-être qu'elle ne détient pas. Et aujourd'hui, la ruine était venue, une complète ruine. Elle éprouvait une fureur de ménagère contre le mari qui n'avait pas su garer la barque. Elle s'étonnait même d'avoir pu s'imaginer qu'elle n'avait pas le droit d'imposer ses volontés, de parler haut. En somme, cette fortune lui appartenait depuis le mariage. Si elle n'avait apporté à Jacques aucune dot, elle lui avait aliéné du moins les biens de son sexe. Et quelle largesse c'était de pouvoir les payer, cela! Quoiqu'elle ne fût ni éprise d'elle-même, ni assotie par l'orgueil, elle pensait forcément, ainsi que toutes les femmes, que la possession de son corps était un inestimable don. Et comme toutes les femmes encore, épouses, filles ou maîtresses, elle pensait aussi que le mari, le père ou l'amant avait été mis sur la terre pour subvenir aux besoins de la femme, pour l'entretenir, pour être en un mot sa bête à pain. Et puis, n'était-elle pas enviable et jolie quand il l'avait épousée? N'avait-elle pas été la dispensatrice de nuits folles? Et n'avait-elle pas été constamment aussi attentive aux souhaits de Jacques, vigilante et douce? En fin de compte, elle avait fait, en se mariant, un marché de dupes, car il l'avait frustrée. Il lui avait volé, par son insouciance, sa vie heureuse et criminellement aggravée, les transes de sa maladie, par le menaçant aspect de la misère. Ah, si c'était à refaire, comme elle ne se marierait pas! Puis une lueur de bon sens lui vint. Que serait-elle donc devenue sans famille et sans dot? Mais son sort était inespéré. Elle avait épousé un homme qui lui plaisait et qui, dans un siècle de lucre, la choisissait pauvre. Enfin, à part son désintéressement de la vie réelle, que pouvait-elle lui reprocher? Rien. Pas même dans le carême charnel qu'il subissait, une brève frasque. Elle eut regret de son injustice. Se soulevant un peu sur le lit, elle appela Jacques et l'embrassa, comme pour le dédommager de cette involontaire explosion d'égoïsme, comme pour se démentir elle-même la bassesse de ses réflexions. Et cependant, malgré cette crise d'intérêt personnel qui les avait tout à coup si brutalement secoués, Jacques et Louise étaient de bonnes gens, heureux de vivre ensemble, inaptes aux sournoiseries des beaux semblants, incapables de se tromper, prêts à se sacrifier sans scrupule l'un pour l'autre. Pris en traître, saisis à l'improviste par une force indépendante de leur volonté, ils incarnaient bien le lamentable exemple de l'inconsciente ignominie des âmes propres. Ils étaient en somme les victimes de ces terribles pensées qui se faufilent chez les meilleurs, qui font qu'un fils adorant ses parents n'aspire certes pas à être privé d'eux, mais songe, sans le vouloir, avec une certaine complaisance, à l'instant de leur mort. Sans nul doute, cette douloureuse pensée le navre. Il est remué jusqu'au fond du ventre par la soudaine vision de la mise en bière. Il se voit pleurant à chaudes larmes, mais il sent aussi couler tout d'abord en lui une lente douceur, alors qu'il se représente au cimetière, entouré de gens qui le regardent, qui stimulent par leur présence son envie d'être intéressant, sa satisfaction d'être plein, qui contente ainsi ce soupçon de besoin de parade que chacun recèle sans s'en douter. Puis, fatalement, maintenant que l'affreux spectacle des funérailles a disparu, il se suit dans l'avenir, s'adjuge une avance, doit rire sur la confortable existence qu'il pourra mener quand il sera son maître. C'est encore ce même ferment d'idées interlopes qui fait qu'un homme demeuré veuf avec des enfants ne peut s'empêcher de ruminer combien son sort serait différent s'il était seul. Et il se lance dans des conjectures, rêve à l'avenir, échafaud d'une vie libre, s'éjouit à évoquer une nouvelle existence, ne va pas évidemment jusqu'à souhaiter que ses enfants disparaissent, mais cède à l'appel de cette idée qu'ils ne sont plus et ils s'y arrêtent. Si ferme, si vaillant qu'il soit, nul n'échappe à ces mystérieuses velléités qui cernent de loin le désir, le couvent, l'élèvent, le cachent dans les latrines les plus dissimulées de l'âme. Et ces impulsions irraisonnées, morbides, sourdes, ces simulacres de tentation, ces suggestions diaboliques pour parler comme les croyants, naissent surtout chez les malheureux dont la vie est dématée, car c'est le propre de l'angoisse que de s'acharner sur les âmes élevées qu'elle abat en leur insinuant des germes de pensées infâmes. Honteuse et attendrie, Louise et Jacques se regardaient sans parler. « Mon pauvre ami, dit enfin Louise, tu dois avoir faim. Je ne puis me lever, allumer le feu. Vois donc s'il ne reste pas de la viande d'hier. La petite de Savin va venir d'ailleurs. Ah, si je pouvais bouger. » Non, ne te fais pas de mauvais sang, t'occupant de moi. Tiens, voilà du veau, du pain et du vin. Je n'ai pas besoin de plus. » Il approcha la table du lit et, sans grand appétit, s'escrima contre du veau fade et du pain dur. Des pas montaient l'escalier. « Ah, c'est l'enfant !» dit Louise, qui se mit sur son séant. « Donne-lui la liste des provisions à acheter. Elle est là, dans le coin, sur la cheminée. » Une petite fille entra, une blondine au nez en croissant, picotée de son, aux yeux en boules blanches et bleues. Elle se tortilla les hanches en reniflant et en grattant du bout de ses doigts son tablier. « Tiens, mignonne, dit Louise, voici la liste pour ta maman. Tu nous rapporteras les achats dans l'après-midi. » L'enfant baissait la tête sans bouger. « Ton papa est épicier, n'est-ce pas? Si tu sais s'il a du gruyère ?» Elle avança le globe de ses yeux qu'elle releva et ouvrit comme une carpe, une bouche dont il ne sortit aucun son. « Tu sais ce que c'est que du gruyère ?»« Mais blanchiment, elle m'a dit de le dire à la dame. » Bouge tout à coup la petite. « Eh bien, reprit Louise, que la question du linge intéressait justement depuis 2 jours, tu lui diras à ta maman qu'elle vienne demain me voir. » L'enfant remua la tête. « Ça ? » s'exclama-t-elle soudain en montant une boîte à poudre de riz. « Tiens, elle se décide à parler !» s'écria Jacques. Il lui mit la boîte débouchée sous le nez. Et alors l'enfant recula, fit la grimace, lança des petits crachats autour de la boîte, ainsi que font les chats autour d'une assiette de foie pas frais. Et elle déclara que l'odeur de cette poudre lui tournait le cœur. « Bien, va prendre l'air. Ça te remettra, et n'oublie pas nos emplettes. Bonsoir. Tiens, voilà le facteur. Est-ce que vous avez une lettre ?»«
Bon, je compte pas. J'ai un journal. »
Et l'homme s'assit, déposa son chapeau de paille par terre, planta sa canne droite entre ses jambes, se retira du dos une sacoche et tendit à Jacques un journal, tout en regardant avec attention le veau qui restait dans le plat. Il paraissait encore plus ivre que de coutume. Jacques lui offrit un verre de vin. Il l'éleva pour souhaiter bonne santé à tous et se le jeta d'un seul coup dans la gorge.
« C'est bon, mais ça creuse !» dit-il,
en regardant toujours fixement le plat. Louise l'invita à se mettre à table. Alors il s'approcha, tira son couteau, trancha un bloc de pain, l'ouvrit, enfourna dans la mie un morceau de viande et avec un bruit de mastication affreux, engloutit et la miche et le veau. Il suça la lame de son couteau avant de le refermer et clignant son œil qui semblait le soupirail par lequel passaient les flammes, couvant sous sa peau cuite.
« Sais-tu donc vous êtes malade, ma petite dame ?» dit-il à Louise.
« Oui, elle souffre dans les jambes, » répondit Jacques.
« Oh, m'en parlez pas, il n'y a pas de plus mauvais mal. Je suis été des semaines sur le dos, sans bouger, mais à ce qui s'appelle s'enlever un doigt par rapport à une chute que j'ai faite, je pensais y crever. Il y aura tantôt 2 ans de ça, j'emboîte toujours. Tenez, on m'a ramassé sur la route de Donne-Marie, dans un fossé. » J'étais comme qu'il est mouru, plus un sou, plus rien. Ils appelaient Père Mignot, Père Mignot, je les entendais point. Le fils à Constant et le grand François peuvent vous le dire.
Avez-vous été bien soigné au moins ? Demanda Louise.
Ouais, non, c'était le temps qu'on vote. Monsieur Patelin, qui était le rouge, et Monsieur Bertulot, qui était pour le roi, ils m'ont envoyé leur médecin jusqu'à 2 fois par jour. Eh, c'était du bon Bordeaux, du chenu qu'on m'apportait. Une fois les votes finis, si vrai que je vous le dis, j'ai jamais revu les médecins et le vin. Eh, qu'il a fallu que je me soigne à mes frais encore, mais voyons. Quelle heure qu'il est, sans vous commander ?
Midi et demi. Mais le facteur se leva et reprit son bâton.
À l'avantage, dit-il, en saluant ta dernière. Ouvert et il descendit.
Louise était retombée, épuisée, sur sa couche. « Si je pouvais dormir, » soupira-t-elle. « Bien, je vais te laisser, » dit Jacques, « jusqu'à ce que la petite de Savin revienne, tu auras le temps de faire un somme. » Il s'apprêtait à partir, quand des pas précipités ébranlèrent l'escalier.
et le facteur reparut, nu-tête, tenant son chapeau, les deux ailes rejointes dans sa main, fermant comme d'un couvercle le panier de paille. Il l'ouvrit par terre, et quelque chose d'effaré sauta. Une bête étrange, emmanchée de pattes énormes, grises et crochues, et surmontée sur un très petit corps roulé dans du duvet blanc, d'une tête grimaçante, affreuse, avec des yeux immobiles et ronds et un bec d'aigle qui refrognait cette face épeurée de vieux singe. « C'est un petit chat-huan qui a dégringolé de son nid dans les orties au pied de l'église. » Et le facteur le toucha du bout de sa botte. La bête marcha péniblement de côté ainsi qu'un crabe, finit par gagner un coin de la chambre où elle s'arrêta, le nez collé contre le mur. « Ah ça, que voulez-vous que je fasse de cet animal ?» demanda Jacques. « Ben, si vous m'en voulez point, j'emporterai au curé de Chalmaison. Il m'en donna bien une pièce de 20 sous. Il en a, cet homme, des papillons, des oiseaux, des taupes qui l'empaillent. Il en a que ces rigolos qui ont l'air de danser et des grenouilles debout qui se battent. » « Mais je ne veux pas qu'on le tue, dit Louise. Il faut le reporter au bas de l'église, sa mère viendra le prendre. »
« Je compte pas, les enfants le trouveront, ils le quilleront avec des pierres. »
Et reprenant la bête immobile dans son coin, il la porta près du lit, golotante de peur, les yeux déserts, aveuglés par le jour, les ailes encore enveloppées dans un cocon de peluche d'une finesse incroyable, d'une blancheur inouïe.
« Bon, alors, il vous va point ? « Viens voir, monsieur le curé, Pierrot, » fit-il en l'enfermant de nouveau dans son chapeau de paille. « Va falloir allonger le pas, car la tente est longue. »«
Bien sûr que vous n'en voulez point. »«
Non, merci, » dit Jacques.
« Tu aurais dû lui donner 20 sous pour qu'il remette ce chaman près de l'église, » reprit Louise, quand le facteur fut descendu. Jacques haussa les épaules et témoigna tout à coup d'un sens pratique. Oh, il aurait pris les 20 sous et serait quand même parti pour Chalmaison. Afin de laisser sa femme se reposer, il sortit, se promena au hasard des allées, puis se rendit chez la tante Norine et trouva porte close. Le mari et la femme étaient au champ.
Bah, il n'y a pas d'aide à attendre d'eux quand on est malade, pensa-t-il. Ils doivent être dans les vignes de la Crafigne, si j'allais les rejoindre. Il n'y alla point, car il se rappelait l'extraordinaire différence qui existait entre la tante Norine et l'oncle assis chez eux, et la tante Norine et l'oncle en train de travailler dans leurs terres. Au repos, ils étaient d'aimables gens, attentionnés pour leur nièce et serviables. Au labour, où ils le prenaient de haut, répondait négligemment, cachait mal un entier dédain. Il semblait qu'ils remplissent un sacerdoce alors qu'ils trifouillaient dans le jus de fumier et que seuls au monde travaillassent. Puis ils gouaillaient et, d'ordinaire très humble, coulaient des regards insolents sur le Parisien qui ne savait seulement pas comment pousse le blé. Bref, on n'apprend pas ça à Paris, que je pense, ricanait Norine, et l'oncle donnait d'un ton docte des explications qu'on ne lui demandait pas.
Vois-tu, mon neveu, la terre est pas comme le pavé de nos villes. Ça travaille, mais c'est aussi comme nous, faut que ça se repose. Quand une année elle a donné du blé, ben, l'année qui vient, on y sème de l'avoine, et l'autre année qui suit encore, on y plante de la pomme de terre ou de la betterave. Puisqu'on reprend le blé, et quelquefois même, il faut qu'elle dorme un an après la moisson sans qu'on y touche. On aurait beau être un malin qui viendrait de Paris, c'est pas un jour qu'on apprend la terre. Puis, pensa Jacques, ils me doucheront encore avec l'antienne de leurs plaintes, et je l'entendrai répéter qu'ils sont combattus, que c'est bien dur de s'échiner à leur âge, tandis que moi, je gagne de la monnaie tant que je veux en ne faisant rien. « Ah oui, j'en gagne, » se dit-il amèrement. C'est étonnant combien j'en gagne. Et combien je suis capable d'en gagner. Et il se demanda, de même que tous les jours, comment, une fois de retour à Paris, il allait vivre. Mais cette question demeurait sans réponse, car il s'avouait modestement n'être bon à rien. Et au château, l'argent diminuait, et la prochaine arrivée du vin commandé à Bray achèverait de draguer sa bourse. Tout bien considéré, il eût mieux valu ne pas se sauver à la campagne, tenir tête aux assaillants, se débattre à Paris, s'installer d'une façon ou autre, ne pas user inutilement son peu d'argent au château de l'Ours. Mais il avait été si las, et Louise était si souffrante. Enfin, il avait compté toucher des créances aux armes. Bah, cet ami qu'il avait jadis obligé et qui se refusait maintenant à le rembourser. Et il est riche, je le sais, se disait-il avec rage. C'était pourtant autrefois un garçon généreux, comme la province vous écale un homme. Mon Dieu, que je m'ennuie, soupira-t-il. Et de même que tous les gens excédés, il rêva de ne pas être où il était, souhaita de s'enfuir loin de l'ours, à l'étranger, n'importe où, de laisser en panne ses tracas et ses ennuis, d'oublier son existence, de faire âme nouvelle et peau neuve. Ouf, ce serait la même chose partout, se dit-il. Il faudrait être transporté dans une autre planète, et encore, du moment qu'elle serait habitable, la misère y serait. Et il sourit, car cette idée d'une autre planète lui rappelait ses songes de la nuit dernière, son voyage en pleine lune. Cette fois, se dit-il, la source de mon rêve est claire, la filiation plus facile à suivre que celle d'Esther, car la soirée qui précéda mon départ pour le vieil astre, j'ai regardé les étoiles et la lune, et je me souviens qu'à ce moment, je me rappelais nettement les détails des cartes sténographiques que je possède. Et au travers de ces réflexions à bâtons rompus, il se remémora tout à coup qu'il fallait, pour les besoins du ménage, tirer de l'eau. Il s'achemina vers le puits et jugea que le treuil eût avantageusement figuré parmi les instruments de torture du Moyen-Âge. Il fallait se pendre après lui, s'arc-bouter en tournant la manivelle pour empêcher la dégringolade effarée du seau dans l'abîme, de peur de détacher la corde retenue par un seul clou dans le tambour en bois du treuil. Puis il fallait tourner en sens inverse et remonter, la tête abasourdie par les cris de la poulie sèche, le seau qui pesait bien 100 livres. Il tournait, tournait, éreintait, regardant la corde, espérant qu'elle remonterait enfin mouillée du trou, annonçant ainsi l'imminente arrivée du seau. Cela n'en finissait pas. C'est curieux, tout de même, se dit-il. Le poids me semble plus léger que d'habitude. Ah, voici la corde. Elle n'est pas trempée. Il atteignit le seau qui apparaissait au ras des margelles. Il était vide. Oh, cela me manquait, fit-il. Le puits est probablement tari. Voilà propre. Il s'assit, découragé. Voyons, il est nécessaire que je prévienne l'oncle Antoine, il connaît mieux que moi les coutumes du puits. Mais ni le père Antoine ni sa femme n'étaient revenus des champs. Il ne les revit que le soir, alors qu'alléchés par l'idée de boire un petit verre, ils rendirent visite à leur nièce. Mais quoi donc que t'as? « Oh là, oh là, c'est idiot possible !» s'exclamèrent-ils, alors qu'elle détendait brusquement la jambe. « Ben, il faut vraiment que ça te trouille pour que tu aies vu comme ça !» Et ils manifestèrent des craintes pour leur bois de plis. Puis, d'un air singulier, presque défiant, ils avalèrent un verre de cassis et partirent, disant que c'était tout de même ben drôle, ces maladies de Paris. « Quoi qu'on a, je te demande à avoir comme ça des sous, questionna Norine une fois sortie. Oh, c'est les riches qu'on ça. Puis là, tu sais, le château, il porte pas bonheur quand on l'habite, à preuve que le marquis est mort. Oui, et que sa femme, lorsque la lune était forte, elle parlait, elle avait plus sa tête. Dis donc, reprit l'oncle, Jacques se plaint que la feuillette n'arrive pas. En attendant, t'as bien coché sur le bois, près de la cheminée, les litres de vin qu'on leur prête. La vieille hocha la tête. Oh ben c'est temps, dit-elle. Ce sera à leur prendre en plus de la moitié de la feuillette qui nous cède. Puis après un silence, écoute donc, mon homme. Quoi donc que t'as ben dit à Bénodi, quand il arriverait de Bray, qu'il apporte la feuillette, pas au château, mais mal chez nous. Oui. Et tous deux sourirent, songeant à une fructueuse combinaison qu'ils préparaient. Retirer de la feuillette et serrer en cave autant de litres qu'il pourrait, puis parfaire le compte des Parisiens en allongeant, par de bonnes écuelles d'eau, la sauce.